Bien, donc nous passons à cette deuxième table ronde. Roland Lescure a bien fait la transition puisqu'il s'agit de mobiliser les acteurs et de financer la transition. Alors évidemment, ça a été évoqué hein, déjà au fil des interventions de la première table ronde. La transition écologique implique une mobilisation à différents niveaux, différents types d'acteurs et puis aussi différents niveaux territoriaux, nationaux, européens et internationaux. On va se poser beaucoup de questions pendant cette table ronde. Comment est-ce qu'on articule les différents échelons? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les uns et les autres agissent de manière complémentaire? Quelle est la place des acteurs publics, la place des acteurs privés? Est-ce qu'il faut des instruments financiers spécifiques? Est-ce que le secteur financier doit se diriger vers des projets économiques décarbonés? On va traiter toutes ces questions pendant la table ronde. Alors c'est toujours le même principe, chacun va avoir un temps de parole qui sera peut-être un peu plus généreux puisque vous n'êtes que trois. Et puis ensuite vous aurez des questions. Alors les jeunes, n'hésitez pas, ne soyez pas timides. Vous pouvez poser une question très courte ou même la lire si vous êtes plus rassurés, mais ce serait sympa de vous entendre. Voilà, alors je vais vous présenter les intervenants par ordre d'intervention et on pourrait commencer par vous, Bénédicte Pérol, vous êtes députée de l'Allier et est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de terrain, de circonscription et puis de votre action aussi sur ces questions qu'on a évoquées en fonction de vos spécialités ?
Bonjour à tous. Alors oui, on a bien planté le contexte dans la première table ronde, donc je vais essayer de rentrer dans l'opérationnel et de faire peut-être, si on parle d'économie ce matin, peut-être un peu plus de micro. Et commencer, pour faire le lien avec la première table ronde, sur le fait, moi je suis pas d'accord avec la hiérarchie des priorités qu'a pu donner Delphine Bateau. Moi je pense que pour justement faire la transition écologique, il y a plusieurs priorités. Il faut définir une stratégie et là le politique est extrêmement important. En deuxième lieu, la norme et la fiscalité, moi je les mets au même niveau pour donner des signaux au marché. Et le dernier point, c'est l'investissement public-privé. Et c'est important de le dire parce que vous allez comprendre aussi ensuite mon exposé. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'il manque 30 à 40 milliards d'euros par an pour être conforme en France, public-privé, pour être conforme à la stratégie nationale bas carbone. La stratégie nationale bas carbone, vous savez, c'est un document cadre justement que l'État donne, des objectifs filière par filière. Est-ce que injecter demain 40 à 30 milliards d'euros dans l'économie fera qu'on atteindra les objectifs? Est-ce que c'est suffisant? Moi, je pense que non. Parce que qu'est-ce qui manque? C'est on peut mettre 30 milliards d'euros dans l'économie comme ça demain, mais s'il n'y a pas de projet concret et que les entreprises ne savent pas où aller, les citoyens ne savent pas où aller, on n'y arrivera pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Pas plus tard que début de semaine, des grandes entreprises sont venues me voir en me disant « Bénédicte, Madame la députée, aujourd'hui, on est prêt à investir, on est prêt à mettre de l'argent, mais on ne sait pas concrètement, filière par filière, là où on doit investir et quelles actions opérationnelles on doit mettre en œuvre pour faire cette transition et qu'elle soit massive. » Donc ça veut dire qu'il faut prendre filière par filière et les accompagner, parce que la stratégie nationale bas carbone, c'est bien, ça vous donne des bilans carbone par filière, agriculture, l'industrie automobile, etc., etc. Et donc ils ont besoin que le politique soit là et qu'il y ait des instances, enfin des endroits où le public et le privé d'ailleurs puissent se parler pour définir ensemble des actions opérationnelles. Ça c'est extrêmement, je pense, important, on le fait... pas assez, il n'y a pas d'instance de lieu qui existe pour pouvoir échanger de manière très opérationnelle. Et il y a un autre sujet, c'est celui de l'identification des besoins aussi. Parce que sur mon territoire, par exemple, moi je vois tout ce qui pourrait être fait. Et là aussi, exemple très opérationnel, il y a deux semaines, j'ai passé la matinée avec un chef d'entreprise d'une petite TPE qui intervient dans le domaine des produits hygiéniques, papier toilette, sopalin, et puis tous les produits que vous mettez dans les WC, etc., qu'il vend à des collectivités territoriales, qu'il vend à des grandes entreprises. Et lui, il est bien, il est pépère, il pense qu'il pourra continuer comme ça pendant longtemps. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est que ces entreprises-là, elles doivent participer comme les grosses boîtes, parce qu'on pense souvent aux multinationales, mais elles doivent participer comme les grosses boîtes à la transition écologique. Or, aujourd'hui, elles n'ont pas conscience que elles peuvent et qu'elles doivent participer, et que si elles ne font pas ça d'ailleurs, je pense que demain, si on arrive à justement prendre conscience, que tout le monde prenne conscience que la transition écologique est une urgence, elle devra se transformer. Et la semaine qui a suivi cette rencontre avec cette entreprise, je voyais un article dans Les Échos disant que la grande distribution était en train d'investir justement dans des produits bio qui étaient respectueux de l'environnement. Donc, et donc, je pense que cette entreprise, demain, si elle ne se transforme pas, elle n'arrivera pas, enfin, elle mourra. Et donc, les petites PME sur nos territoires, aujourd'hui, il n'y a pas d'outils non plus pour les accompagner à identifier leurs besoins. Il y a quelques postes que l'ADEME finance. Donc l'ADEME, c'est un opérateur de l'État qui met en œuvre des politiques de transition écologique. Mais là, je pense que de manière très opérationnelle, il faut massifier l'accompagnement. Et donc ça participe d'un point de vue des politiques publiques aussi, peut-être un peu moins de personnes dans les ministères à Paris, un peu plus sur le terrain, pour justement aider les entreprises sur nos territoires à identifier leurs besoins et pouvoir faire cette transformation. Et l'investissement découlera, et l'investissement, l'argent, on pourra le mettre dans ces transformations-là. Ensuite, un mot sur les collectivités aussi. Même sujet, les collectivités, elles investissent aujourd'hui, exemple Vichy Communauté, communauté d'agglo de ma circonscription, investit dans des bus électriques. Aujourd'hui, il va y avoir la possibilité de trier tous ces déchets plastiques. Donc il y a un investissement qui est fait aussi dans les outils industriels de recyclage. Mais pour que les investissements et pour que les investisseurs se disent c'est intéressant, et donc on va aussi massifier, on va aller venir investir dans ces projets, il y a un besoin de massification des projets. Et dans une petite collectivité comme Vichy Communauté comparée à une grosse métropole, et Roland parlait de la fracture territoriale, eh bien pour pouvoir réduire ces fractures aussi et qu'il y ait des investissements qui viennent sur ces territoires, il faut que les collectivités arrivent à se rassembler et arrivent à massifier ces projets pour que l'investissement et que les investisseurs et qu'elles puissent peut-être lever aussi des fonds pour venir financer cette transition écologique. Et un autre point sur les collectivités qui rejoint ma connexion public-privé. Un exemple très concret, j'ai beaucoup de transporteurs routiers, d'entreprises transporteurs routiers de marchandises sur mon territoire. Donc forcément, beaucoup, beaucoup de pollution. Et aujourd'hui, ils s'interrogent, ils sont dans une démarche de dire peut-être qu'il faudrait qu'on transforme nos flottes de véhicules pour qu'elles utilisent des carburants un peu plus propres, donc notamment le GNV, même si on peut avoir des discussions si c'est le meilleur carburant, mais en tout cas, si on prend cet exemple-là, ils ont une volonté de se transformer, ils ont une volonté de modifier leur flotte de véhicules. Or, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Des stations GNV. C'est bien quand l'entreprise veut basculer d'un modèle à un autre, mais il faut qu'elle ait tout le modèle qui puisse fonctionner. Et donc, il pourrait y avoir la collectivité, le département, à travers son syndicat d'économie d'énergie qui intervient, d'électricité, pardon, il pourrait y avoir la région qui intervient avec des entreprises privées. Or, tout le monde se regarde en chien de faïence en disant qui va y aller le premier et investir. Donc ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il faut là aussi nécessiter que les acteurs se parlent et qu'il y ait des plans stratégiques qui se mettent en place. Et là, j'ai envie de dire, la bonne maille, c'est le territoire, parce que la solution dans l'Allier et de manière générale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fonction des ressources en plus qu'on a, elle ne sera pas forcément la même qu'en région Occitanie. Donc il faut qu'il y ait des engagements réciproques qui se fassent aussi pour pouvoir faire en sorte qu'on y va plutôt que d'attendre. Et c'est un peu la procrastination. Et donc la transition écologique, ça attendra demain, parce que de toute façon, ni le privé ni le public n'y vont, parce que on ne sait pas, si ça va durer, s'il y en a un qui va vraiment y aller, et puis deux, si l'investissement durera sur le long terme. Et puis, un autre point sur les outils. On a beaucoup parlé de fiscalité sur la première table ronde. Alors moi, j'avoue que j'ai découvert la fiscalité écologique, même si j'ai une formation de fiscaliste, quand j'ai commencé à entrer dans le monde politique. Donc il y a un problème de formation à la base, même si il y a des efforts qui sont faits depuis que je suis sortie de l'université. Mais pour vous dire que c'est quelque chose qui n'imprègne pas, donc on peut bien évidemment ensuite se dire « Ah bah à Bercy, ils réfléchissent pas fiscalité écologique », mais c'est parce qu'il y a un problème de formation. Donc je pense que c'est vraiment aussi le cœur du sujet. Et puis, j'étais profondément favorable à la taxe carbone, parce que je pense que c'est un outil économique extrêmement intéressant. Je suis toujours convaincue que c'est un bon outil. Sauf que le gros problème, c'est que c'est un bon signal économique, mais qu'en France, on a des tonnes de contre-signaux qui, en fait, annulent le signal de la taxe carbone. Et tant qu'on n'aura pas fait le ménage de l'ensemble des dispositifs, et moi, je crois qu'il faut garder un outil unique qui pourrait être la taxe carbone et faire le ménage de tout le reste. Tout le reste, c'est quoi ? C'est les primes à la conversion des véhicules qui donnent un autre message économique, hein, qui intègre un prix carbone implicite qui est différent de celui de la taxe carbone. C'est toutes les subventions aux énergies renouvelables aussi qui donnent un autre signal. C'est les niches fiscales, on en parle beaucoup en ce moment, mais vous avez des dépenses fiscales défavorables à l'environnement qui existent, mais sur plein d'énergie. Et donc, tout ça, je crois que les investisseurs et les personnes, qu'elles soient personnes morales, entreprises, et qu'elles soient personnes physiques, nous, individus, on ne sait plus, finalement, où on doit agir, à quel moment, et donc les messages sont brouillés. Et un dernier mot, parce que c'est bien beau de parler de verdissement des investissements, mais je crois qu'il faut mettre au cœur du sujet aussi les désinvestissements dans les énergies carbonées. C'est ce dont parlait Delphine Bateau, sauf que moi j'ai une vision un peu moins radicale, parce que je ne pense pas que du jour au lendemain on dise on arrête tous les financements des énergies fossiles. Je ne suis pas convaincue que ça ait un, que ce soit possible et réaliste, et deux, que ce soit acceptable de manière générale et internationale. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie politique. Je pense que les banques publics, privés doivent garder la main sur des investissements et des participations, d'ailleurs, qu'elles peuvent avoir dans des entreprises qui aujourd'hui exploitent des énergies carbonées, et elles doivent faire la transformation, c'est-à-dire avoir une vision à 5 ans, à 10 ans, en disant vous allez vous transformer, et à 10 ans vous savez que vous ne pourrez plus investir dans les énergies carbonées pour pouvoir vraiment faire la transition et qu'on bascule vraiment de modèle. Mais il faut être très très réaliste, encore une fois, ça ne se fera pas en 2 ans, 5 ans. Il faut une vraie stratégie moyen terme, long terme, pour pouvoir faire ce basculement, et que ce basculement il soit pas uniquement français ou européen, mais qu'il soit international. Et puisqu'on est une matinée économique, je vous recommande, moi j'ai pas écrit de bouquin, mais il y a l'économiste de l'économie de Toulouse, Christian Gaulier, qui justement a sorti un livre il y a pas très longtemps, enfin il y a juste ces dernières semaines, et qui pour moi, j'essaye de me documenter beaucoup, parce qu'encore une fois, je suis très modeste, et ça fait pas très longtemps que je travaille sur ces sujets-là, mais pour moi, ça m'a permis d'avoir une vraie vision de l'outil économique, en tout cas fiscal et subvention, et de comprendre encore une fois cette question de prix carbone qui est assez compliquée, d'externalité négative, et comment ces contre-signaux s'imbriquaient entre eux. Donc en tant que jeunes étudiants, je vous le recommande vivement, parce que je crois qu'il permet d'avoir une vision assez intéressante du sujet.
Merci beaucoup Bénédicte Pérol. Alors vous avez présenter votre vision et poser ces questions. Où est-ce qu'on doit agir? Comment? Je vous propose d'écouter Michel Colombier. Vous êtes vous aussi membre du Haut Conseil pour le climat et professeur associé à Sciences Po Paris. La parole est à vous.
Merci beaucoup. Oui, ça marche. Oui, moi, je vais peut-être repartir. Ce matin, on a entendu un exposé très intéressant sur ce livre qui a été fait sur la question de la pauvreté. Et ce que je trouvais fascinant, c'est que c'est un livre écrit par un économiste qui arrivait à mettre l'économie en perspective dans tout un certain nombre d'autres approches, des approches historiques, des approches sociologiques, etc. Et nous expliquait que finalement l'économie c'est une clé de lecture, qu'il y en a d'autres, et qu'il ne faut pas opposer ces deux questions-là. Et ce que vous disiez, ben vous êtes encore là, ce que vous disiez qui était fascinant sur l'Afrique, c'était évidemment, on peut poser des questions uniquement en termes économiques, mais si on a besoin de comprendre comment on peut faire décoller l'Afrique et trouver des solutions, il faut aussi s'interroger éventuellement sur qu'est-ce qu'est l'Afrique, c'est quoi son imaginaire, c'est quoi sa capacité à construire une histoire, etc. Et je crois qu'on a exactement la même question ici, si on veut parler de gouvernance, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a besoin d'inventer de nouvelles règles économiques. Il faut être sérieux, et ça a été dit ce matin, enfin ça a été relativement clair, on va pas, si on continue la même chose, on va pas arriver à des résultats différents. Et on a besoin évidemment de se construire un imaginaire à l'intérieur de ça. Dans les règles économiques actuelles, il y a des gens qui arrivent à faire du business, puis il y a des gens qui arrivent pas. Voilà. Donc des gens ont besoin d'un imaginaire pour construire des solutions. On n'a pas 3-4 solutions clés comme ça, définitives. Et ces différents niveaux, ces différentes institutions vont être essentielles dans la constitution de cet imaginaire. Alors, Il y a un truc qu'on a, je crois, abandonné, c'est l'idée qu'on fait des accords internationaux. Le jour où on se mettrait d'accord, les accords sont contraignants, donc les pays seraient bien obligés de faire. Alors du coup, on se réunirait dans les capitales, on irait voir le Parlement, et le Parlement prendrait les bonnes grandes décisions qu'il faudrait. Voilà. Et il y a quelques lois qui feraient changer les entreprises, et puis pour le reste, les collectivités locales, elles mettraient en œuvre. Bon. Ça, ça ne marche pas, ça a été expliqué ce matin. Alors à quoi ça sert des accords internationaux ? Ben, je reviendrai après à quelles conditions c'est possible. Mais on voit bien qu'on en a besoin. On voit bien qu'on a besoin d'avoir confiance les uns dans les autres sur le fait que ce truc est extrêmement compliqué. Sinon, on va se renvoyer évidemment la patate. On va dire, mais non, c'est les Africains, ils sont nombreux, oh là là, il va y en avoir des milliards encore à la fin du siècle. C'est pas la peine qu'on fasse quelque chose. Si nous ne faisons rien, si nous ne proposons pas, indépendamment de notre propre empreinte, si on ne montre pas, nous, qui avons les moyens de le faire, qu'il est possible de résoudre ces problèmes-là et de trouver un autre modèle de prospérité, bah, je veux dire, on ne peut pas attendre des autres qu'ils le fassent. Donc on ne va pas éradiquer la population mondiale. Donc évidemment qu'on a cette responsabilité. La négociation globale, elle nous sert d'abord à ça. Elle est extrêmement importante, elle sert à renvoyer à tout le monde un signal qui a une certaine confiance dans le fait que les uns et les autres, on va se mettre au travail. Alors il y a des limites, c'est vrai, c'est un peu volontaire, parce qu'on n'a pas de gendarme international, mais on a besoin de rentrer chez soi et d'être capable de dire, et quand on rentre après l'accord de Paris, moi j'ai des amis qui sont conseillers généraux à Toulouse, le succès de l'accord de Paris leur donne des arguments quand ils rentrent et quand tout le monde en parle pour dire, bah voilà, nous, il faut qu'on fasse des choses dans notre canton, ça passe comme ça, hop, par-dessus le Parlement, je suis désolé. Et quand Trump nous dit, j'y crois plus, et que du coup, il y a de la tension, et qu'en Europe, on se demande si, etc., bah, ça fragilise le consensus qu'on peut créer. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, on voit bien qu'au niveau national, il y a quand même des grandes choses qui sont importantes. On a parlé de politique économique ce matin, il y a des politiques de recherche, il y a des grandes directions quand même qui doivent être données. Est-ce qu'on a une solution ? Est-ce que l'agroécologie, c'est une transition possible ? C'est un modèle à proposer aux agriculteurs ? Derrière ça, il y a des tas de réalités. C'est compliqué, il va falloir les voir sur le terrain. Mais quand même, est-ce qu'on a des grandes directions ? Alors, c'est ce qu'on essaye de faire dans des instruments un peu de programmation. Tu as mentionné la SNBC, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que ça. Mais enfin, en tout cas, nos administrations, en lien avec les acteurs, en lien avec les entreprises, en lien avec tout un certain nombre de « sachants », entre guillemets, essaye de se dire c'est quoi les grandes pistes de la transition. Est-ce qu'il faut parier sur du véhicule électrique ? Est-ce qu'il faut mettre les gens dans des trains ? Est-ce qu'il faut isoler ? Enfin, les choses dont on a parlé ce matin. Donc ça commence à construire un imaginaire. Mais je pense qu'après, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est de se dire au niveau local, on voit souvent le niveau local comme le niveau qui devrait mettre ça en œuvre. Bon. Moi, je pense que c'est un peu rapide. Il y a à mon avis, trois choses extrêmement importantes au niveau local. Alors évidemment, il y a quand même le fait que le niveau local, c'est celui qui, quelque part, gère toute cette infrastructure du développement, de la vie collective et ces services qui font qu'on s'inscrit, Alain nous le disait ce matin, hein, vertueux ou pas vertueux, on s'inscrit dans des organisations d'infrastructures, de services, etc., qui font qu'on a des choix, qu'on en a moins, on voit la différence rurale, urbaine, etc. Ça, évidemment, c'est entre les mains des collectivités locales, dans une très grande schizophrénie, parce qu'on a des collectivités qui, à la fois, ont cette responsabilité d'investir dans des nouveaux modes de transport, etc., et qui, en même temps, gèrent aujourd'hui pas mal en France, et je pense que c'est bien, mais gère des instruments de planification urbaine dans lesquels, pour l'instant, la transition écologique, elle passe pas tellement quand même. Il faut bien reconnaître, quand on regarde les SCOT, tous ces documents de planification qui sont très importants, qui disent aux acteurs où est-ce que vous pouvez construire, où est-ce que vous pouvez développer des zones commerciales, etc., on est pour l'instant assez schizophrène. Mais il y a deux autres choses qui sont, à mon avis, importantes du point de vue du travail qui peut se faire au niveau des collectivités et qui était tout à fait apparent dans ce qui vient d'être dit par Bénédicte. Alors, je ne vais peut-être pas trop paraphraser, mais simplement, il y a une première chose qui est, on voit souvent la transition uniquement comme une histoire d'économie et de technologie. Il faut des sous pour acheter des technologies, ce qui n'est pas faux. Hein. Mais il y a derrière ça un énorme travail d'ingénierie sociale. C'est énorme. Pour arriver à isoler des bâtiments, il ne suffit pas d'avoir de la laine de verre et de l'argent. Il faut arriver à former des acteurs, il faut arriver à former des entreprises, il faut des gens qui soient capables d'intégrer tout ça dans un conseil aux citoyens pour qu'ils se disent, tiens, si je veux faire quelque chose, j'appelle qui pour isoler ma maison ? J'appelle un plombier, il ne m'isole pas la maison, il me change la chaudière, en fait, etc. Le développement, et notamment l'accélération d'une transition, c'est un énorme travail d'ingénierie sociale, ça veut dire des gens sur le terrain, et souvent on sous-estime cette dimension-là. Moi je me rappelle, j'ai commencé ma carrière au Portugal, à un moment où ce pays sortait de sa révolution, on rentrait dans l'Union Européenne, on a eu des afflux massifs de fonds FEDER, on avait plein de fric, mais on n'avait pas un rond pour embaucher des gens sur le terrain, pour faire, et on a détourné, je le dis, je l'assume aujourd'hui, de la prescription, on a détourné une partie du FEDER pour embaucher des gens. et pour se dire si on veut dépenser intelligemment notre FEDER, il faut d'abord qu'on embauche des gens sur le terrain qui vont aller voir localement avec les entreprises, avec les élus, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire de malin avec cet argent du FEDER ? Sinon, ça va repartir dans des grands projets, ça ne servira à rien. Donc cette ingénierie sociale, pour moi, elle est essentielle. Et elle va permettre une autre chose. Ça a été légèrement mentionné aussi ce matin. Cette transition écologique, elle est compliquée. On a vu dans la crise des Gilets jaunes, parce que la façon dont elle se confronte à la question sociale, on peut y voir d'immenses espoirs, mais on peut y voir aussi des très gros risques. Et je crois que la question, c'est bien de voir où est-ce qu'on peut construire sur les espoirs, les opportunités qu'on peut avoir d'un modèle économique différent. Mais évidemment qu'il y a aussi des risques de friction. Ça consiste en gros à dire, quand on met d'ailleurs une taxe, on crée une tension en disant, ben voilà, la façon dont on s'organisait jusqu'à maintenant, ça n'a plus marché. Là-dedans, il y a des perdants, c'est forcé. Donc, on a cette friction qui est, je dirais, partie intrinsèque de la notion de transition, qui est la friction avec la question sociale, dont il faut sortir par le haut. Et même à l'intérieur de la question écologique, on a des tas de questions. Et on peut rapidement se confronter avec des gens qui ont le climat comme seule clé de lecture, et puis des gens en face qui ont la biodiversité comme clé de lecture, et puis arriver à se dire, non, mais toi, tu essayes de me faire des trucs, mais pour moi, c'est une catastrophe. Bon. Et ça... Encore une fois, on le détecte au niveau d'un rapport de l'IPCC, au niveau scientifique. On va pouvoir donner quelques directions au niveau national. Mais je pense que ces choses-là s'instruisent dans la mise en œuvre concrète des choses de terrain. Et que donc, on est dans une grande expérimentation là-dessus. Et que jusqu'où on peut aller et comment on doit tenir compte, trouver des solutions sociales, trouver des solutions qui conjuguent la biodiversité, le climat, etc. Tout ça, c'est une instruction. Aujourd'hui, un processus d'innovation qui est mené sur le terrain. Mais ça veut dire qu'on a besoin d'une chose qui, à mon avis, on ne fait pas assez, c'est qu'il faut faire remonter. Il faut qu'on capitalise de tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup de travail aujourd'hui qui se fait à l'initiative d'élus, à l'initiative d'entreprises de terrain, à l'initiative d'ONG, de citoyens, etc. Il faut qu'on arrive à capitaliser tout ça pour conforter, questionner, remettre en cause éventuellement la façon dont on construit des visions au niveau national ou la façon dont on peut aussi accélérer la discussion internationale. Et je vais terminer sur deux petites choses. Il y en a une vers l'international. Ban Ki-moon, un an avant l'accord de Paris, il a fait un truc super intéressant. Il a invité des tas de chefs d'entreprise, de grandes entreprises, à New York, pour dire la transition climat, est-ce que c'est possible ou pas ? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, c'est des grands chefs d'entreprise, ils sont là, ils prennent des engagements, ça vaut rien, etc. Ce n'était pas tellement le problème. Ce qui était fascinant, c'est qu'on a eu une réunion dans laquelle il y avait plein de chefs d'entreprise dans des tas de secteurs, la finance en particulier d'ailleurs, qui sont venus dire, nous, si on nous dit qu'il faut faire du business dans un monde compatible climat, on sait faire. Et ça avait une vraie valeur, c'est que ça rassurait des politiques sur le fait qu'ils pouvaient prendre une décision qui n'était pas une décision anti-économique ou anti-prospérité. Donc la question n'était pas tant de savoir si ces types-là étaient sincères, mais l'impact... que cette remontée, ce témoignage d'un certain nombre de milieux du business pouvait avoir, était extrêmement important dans un processus politique à un moment donné. Ça, je pense que c'est essentiel. Et la deuxième chose, c'est, je pense qu'on a besoin de cette remontée d'une façon beaucoup plus concrète, mais limitée aujourd'hui. Par exemple, au niveau national français, on a des discours qui sont souvent... des conflits ou des discussions à Paris qui sont souvent un peu abscons sur comment on réussit tel ou tel truc. Il y a beaucoup de choses qui s'expérimentent sur le terrain, par exemple sur comment réussir la transition dans la question de la rénovation du bâtiment. Plein de choses qui s'expérimentent chez nous, en Allemagne, en Suède, etc. On peut remonter de ça et trouver des solutions très concrètes à des débats souvent qui restent sur un plan extrêmement théorique en ce moment.
Merci beaucoup, Michel Colombier. Alors, votre voisin, Olivier Gersan, travaille à la Commission européenne à Bruxelles. Vous pilotez un pôle qui a un nom très long, mais qui en dit beaucoup. Vous allez nous expliquer ce que vous faites et évidemment le rôle que vous pouvez avoir sur le climat. Vous êtes donc directeur général de la stabilité financière, des services financiers et de l'Union des marchés de capitaux. Voilà. Des services financiers qui peuvent aider probablement à la transition écologique. Ça nous embouche un coin.
Ah ben non. Enfin, je vais vous expliquer. Je suis surtout corrézien, moi. Je suis pas. C'est juste à côté de chez vous, madame. Enfin, pas très loin. Donc, avec les pieds assez bien plantés dans le sol. Non, en fait, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on appelle le trésor à Bercy, mais au niveau européen. Donc, je fais de la régulation financière, pour faire simple. Et Tout à l'heure, on a parlé d'externalité, donc peut-être j'ai commencé par là. Il y a un monsieur qui s'appelle Nicolas Stern qui a fait un rapport en 2006. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que les coûts, si on ne fait rien, associés au changement climatique, sont infiniment plus importants que les coûts de mitigation. Donc, le coût de faire quelque chose est beaucoup plus faible. Et puis, accessoirement, on survit dans ce scénario-là, alors que dans l'autre, ce n'est pas très sûr. Ça a l'air comme ça d'être une proposition simple et attractive. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que, presque 15 ans plus tard, on en parle toujours et on n'a pas fait grand-chose? Et la raison, c'est ce qu'un ami à moi qui s'appelle Mark Carney, qui est le patron de la Banque d'Angleterre, et aussi d'un truc qui s'appelle le Conseil de stabilité financière, dont je fais partie, qui est en fait le conseil des super technos au niveau mondial, qui prépare les décisions du G20, donc du groupe des 20 pays les plus industrialisés. Mark Carney est le président de ce groupe, et c'est lui qui a mis la finance climatique à l'agenda international, largement grâce à lui. Et il appelle ça la tragédie de l'horizon. Et la tragédie de l'horizon, c'est quoi ? C'est la question des externalités. En fait, le coût dont Nicolas Stern parle, c'est un coût très important, mais très lointain, ou assez lointain, et collectif. C'est un coût pour nous tous, c'est un coût sociétal, mais c'est pas un coût individuel pour les acteurs économiques. C'est ce que disait tout à l'heure monsieur le député, c'est ça vous coûte rien, à part le prix de l'essence, de faire 50 fois le tour du périph. Et le coût de la pollution que ça génère, vous le supportez pas. Ça coûte rien aux entreprises de faire des choix plus polluants si elles ont des avantages économiques à court terme. Et c'est ça la tragédie de l'horizon, c'est que les coûts de mitigation, ils sont maintenant et ils sont individuels, alors que les coûts du réchauffement climatique, ils sont dans plus longtemps et ils sont pour tout le monde et donc pour personne. Donc il y a un problème d'appropriation pour les acteurs économiques. Et pour moi, une des fonctions essentielles dans une économie moderne de la puissance publique, c'est de rendre individuellement appropriable et immédiat justement ces coûts qu'on appelle des externalités négatives, qui sont très lointains et collectifs. Et ça, c'est une partie de ce qu'on essaye de faire dans la finance. C'est pas forcément... Et l'autre partie, c'est d'essayer de définancer évidemment ces coûts de transition. Tout de suite, une deuxième incidente avant d'en arriver au cœur de mon sujet. L'autre grand moyen de rendre ces coûts appropriables, c'est évidemment la fiscalité. C'est même un moyen beaucoup plus puissant que la réglementation financière. Et de ce point de vue-là, ce que j'ai entendu ce matin sur les taxes, notamment ce que vous avez dit, madame, sur une TVA écologique, évidemment que c'est pas redistributif, parce que la TVA, c'est pas redistributif. Mais ça n'est ni plus ni moins que la TVA d'aujourd'hui. En revanche, une taxe carbone aux frontières, c'est pas redistributif non plus, c'est pas logique, parce que il y a des tas de coûts carbone qui sont à l'intérieur de nos frontières, et quand je dis frontières, je parle frontières européennes, puisque vous savez que entre nous, dans le marché unique, on peut pas se discriminer, donc vous pouvez pas taxer un produit qui vient d'Allemagne autrement qu'un produit qui vient de France. Et c'est normal, c'est la condition d'être, d'avoir un marché unique. Comme on est membre de l'OMC, on ne peut pas non plus taxer un produit qui vient d'ailleurs, autrement qu'un produit qui vient de France, toutes choses égales par ailleurs. Et l'avantage d'une TVA assise sur le contenu carbone, là, il y aurait beaucoup à dire parce que c'est très compliqué, et ça ouvrirait donc la voie à beaucoup de stratégies pour éviter cette taxe, mais on pourrait faire plus simple et l'asseoir simplement sur le coût de transport. C'est que à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières, ça favoriserait, ça rendrait moins cher la consommation locale. Plus vous êtes local, et moins c'est cher. Et en réalité, on ne transporterait plus sur de grandes distances que les produits pour lesquels on n'a pas le choix, ou pour lesquels la valeur ajoutée est tellement importante que ça rend la taxe supportable. Et moi, je trouve que c'est un système qui est relativement vertueux. Il pose un problème. C'est qu'évidemment, dans ce système-là, si vous faites l'intégralité de l'assiette sur le coût carbone, vous ne pouvez pas... Enfin, c'est compliqué de faire des taux réduits pour les produits de première nécessité, parce qu'ils peuvent être de première nécessité et malgré tout avoir un coût carbone important. Et donc vous devez régler ça probablement avec un autre instrument. Mais j'écarterai quand même pas complètement cette idée-là, parce que j'en ai pas quand même entendu beaucoup de plus efficaces, plus simples et plus rapides à mettre en œuvre. Alors, concrètement, l'Union européenne, nous tous, on est la partie du monde, c'est la bonne nouvelle, qui a la stratégie de transition vers une économie bas carbone la plus aboutie. Ça ne veut pas dire que c'est super, mais c'est mieux qu'ailleurs. Et donc, on a une stratégie qui consiste à diminuer de 40% nos émissions d'ici à 2030, et puis à atteindre la neutralité carbone en 2050. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. L'étape 2030, elle coûte grosso modo 200 milliards par an d'investissements supplémentaires, c'est-à-dire en cumulé à peu près 2000 milliards. Et puis l'étape 2031-2050, elle en coûte 3000 et des poussières de plus. Et donc au total, on est sur un coût à 5000 milliards d'euros. Et vous voyez tout de suite qu'on est très au-delà des capacités de financement des budgets publics. Même si on décidait de dédier tous nos budgets publics au financement de la transition, on n'y arriverait pas. Et c'est la raison pour laquelle il faut mobiliser la finance privée. Alors la bonne nouvelle, c'est que on est assis en Europe sur des marchés financiers d'à peu près 100 000 milliards d'euros. Ok, 5 000, 100 000. Donc c'est faisable. Ces marchés financiers, il y a un problème, il y a plusieurs problèmes, mais un des problèmes principaux, c'est qu'ils ont un appétit immodéré pour la liquidité, en d'autres termes, pour le court terme. Ils sont investis massivement, non pas dans des emplois de long terme, durables ou pas, mais dans des emplois de très court terme, notamment dans les instruments qu'on appelait des money market funds, qui sont des instruments de très très court terme, à 2, 3, 4 semaines. Et tout l'enjeu, c'est de les rediriger en partie vers des emplois plus durables et plus longs. Et pour ça, il faut comprendre pourquoi, alors qu'on a un besoin d'investissement long, parce que pourquoi est-ce qu'on est assis sur ces tas d'argent ? Parce qu'on vieillit. Pour deux raisons. Parce qu'on sort d'une crise et parce qu'on vieillit. En crise, on épargne plus, parce qu'on n'est quand même pas très tranquille sur le futur. Et quand on sait qu'on va vieillir et qu'on a la démographie qu'on a, on commence à se rendre compte que les systèmes par répartition vont être débordés, et donc on a aussi tendance à épargner plus. Et vous voyez bien que cette épargne de précaution qui prépare en fait votre retraite, elle a besoin de s'investir dans des produits d'investissement ou dans des investissements qui sont à la fois longs et sûrs. Pas forcément avec des taux de rendement super élevés, mais longs et très sûrs. Et les investissements en infrastructure, et notamment en infrastructure de décarbonation, la bonne nouvelle, c'est que ça remplit ces critères. Et donc, toute la question qu'on se pose, c'est pourquoi, alors qu'il y a un besoin d'un côté et de l'argent de l'autre, ils ne se rencontrent pas. Et il y a plein de raisons à ça, des deux côtés. Du côté de l'ingénierie financière, ça c'est ma partie, mais aussi du côté des projets. Parce que ce que vous disent les financiers aujourd'hui, c'est qu'ils seraient ravis de financer plus de projets de décarbonation s'il y en avait. Donc c'est compliqué. Alors moi je ne vais pas vous parler de l'autre côté parce que j'y connais rien, je vais juste vous parler de ma partie assez brièvement. Qu'est-ce qui fait qu'on n'investit pas, suffisamment dans des investissements durables ? La première chose, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. Ou plutôt qu'on ne parle pas tous de la même chose. Les Français vont vous dire que d'investir dans le nucléaire, c'est vachement durable. Les Allemands vont vous dire que c'est l'horreur absolue, que c'est pas durable du tout. La réalité, c'est que c'est plus compliqué que ça. Les Allemands pensent que le charbon vert, moi je ne sais pas très bien ce que c'est, mais eux, ils ont l'air de savoir, ça c'est vachement durable. Les Français trouvent que c'est une horreur absolue. Donc, on n'est pas d'accord sur les bases. On ne se comprend pas. Et quand on ne se comprend pas, qu'est-ce qui se passe dans un moment où la conscience environnementale se développe ? Et peut-être certains d'entre vous, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, en tout cas moi j'ai mes enfants qui tous les jeudis à Bruxelles battent le pavé au lieu d'être en classe, avec la bénédiction de leur papa. Donc, on commence à avoir un mouvement. Et donc, les investisseurs se disent, comme aujourd'hui, il n'y a pas de différence de performance économique entre des investissements durables et des pas durables, autant investir dans du durable. Et donc, il y a une assez forte demande. Mais comme on ne sait pas de quoi on parle, les fonds, enfin, les intermédiaires financiers, ils sont tous verts. Évidemment. Puisque, un, vous attirez les investisseurs à vous. Deux, vous pouvez éventuellement espérer leur coller des frais un peu plus élevés. Et trois, leur dire que oui, c'est vrai, ça rend un peu moins, mais c'est parce que c'est vert. Tout à fait faux, évidemment. Et donc, on a ce qu'on appelle, avec un beau mot anglais, du greenwashing. C'est-à-dire qu'on repeint tout en vert, même ce qui n'est pas très très vert. Évidemment, avec ça, on redirige bien l'investissement, mais pas là où on voudrait. Et donc, la première chose, c'est de savoir de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, on s'est engagé au niveau de l'Union européenne dans un vaste projet qu'on appelle la taxonomie environnementale. Et c'est quoi la taxonomie ? Ben, c'est d'essayer d'avoir un langage commun. Et nous, on est parti d'un truc assez simple. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a le carbone, mais il y a aussi l'économie circulaire, il y a aussi la biodiversité. Tout ça, c'est contenu dans les 6 objectifs de développement durable de l'ONU. Et nous, on est reparti de ces 6 objectifs de développement durable parce qu'on n'avait pas envie de réinventer la roue. Et justement, on en a fait une roue à 6 points d'entrée. Et puis on s'est dit, on va commencer par faire une taxonomie carbone, c'est-à-dire par se mettre d'accord sur ce que ça veut dire d'être bas carbone. Et pour ça, on prend notre roue à 6 points d'entrée, on la fait tourner jusqu'à ce qu'on soit en face de l'entrée carbone, et on dit, un investissement qui va remplir les critères de la taxonomie, c'est un investissement qui a un effet positif en termes d'émissions de carbone et qui est neutre sur les 5 autres objectifs. Parce que je ne veux pas un truc positif sur le carbone, mais qui est massivement destructeur de biodiversité, par exemple. Ça n'a pas de sens. Et donc, si cet investissement il répond à ces critères-là, boum, il rentre dans ma taxonomie, c'est-à-dire dans ma catégorie premium d'investissement vert. Et là, on sait tous de quoi on parle. Ça a l'air très simple, c'est super compliqué. C'est super compliqué parce que il y a tout un tas de choses à décider. Vous comprenez bien. Par exemple, moi, mon patron m'a dit, écoute, pourquoi tu t'embêtes? C'est super simple, ton truc. Pourquoi tu as 300 experts qui travaillent là-dessus? Parce qu'on a 300 experts qui travaillent là-dessus. Alors que moi, je peux te dire tout de suite, une Tesla, c'est vert. Une Renault, c'est brun. Bon, pas de bol. La voiture, en cycle complet, conception, création, utilisation, démantèlement. La plus verte du monde, la moins émettrice de carbone, disons, c'est une petite Hyundai de 900 cm3 à essence. 5 fois moins qu'une Tesla. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas complètement évidentes. Quand vous conduisez une voiture électrique, selon que votre batterie, elle a été produite en Chine ou demain en France ou en Allemagne, vous aurez une différence de 1 à 4 sur les émissions carbone. C'est pas la même batterie. Dans un cas, elle est verte et dans l'autre cas, elle est assez brune, bien que ça soit une batterie électrique dans les deux cas. Donc tout ça, ça nécessite quelque chose d'un peu plus subtil, de dire ça c'est vert et ça c'est brun. Je vous prends un dernier exemple. Les verres qui des fenêtres. Alors ceux-là, ils ont pas l'air très verts, ils ont l'air très vieux surtout, ce qui est une qualité. Ça veut dire aussi que leur performance énergétique, elle est probablement pas terrible. Et on a besoin que les producteurs de verres plats, ils fassent des gros investissements pour nous faire des verres très techniques qui vont permettre de faire des maisons passives, non pas nouvelles, ça on sait faire, mais à partir des parcs immobiliers existants. C'est-à-dire de rénover vos HLM des années 50 pour cesser que ça soit des passoires thermiques. Parce que c'est là que sont les grosses économies. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on doit économiser 40% de nos émissions d'ici 2030, plus de 80% d'ici 2050, si on veut être dans nos objectifs en Europe. Donc, c'est énorme. Et donc, il faut aller taper dans les gros gisements d'économie, c'est-à-dire là où aujourd'hui, on émet beaucoup de carbone. Et donc, évidemment, il faut pouvoir inciter ces gens-là à faire ces investissements, mais eux-mêmes sont assez bruns, parce que c'est très énergie-intensif de produire du verre. Donc, comment on fait? On dit qu'ils sont bruns, bouffe, bon, on n'en veut pas. Du coup, on les sort de ce à quoi on investit pour faire des investissements durables, ou est-ce qu'on dit bon, bah, vous êtes brun, mais ce que vous fabriquez, c'est très utile, et donc on va quand même vous rendre investissable, ou on trouve quelque chose à mi-chemin. C'est tout
reste,
ça qui se pose.
Il vous reste deux minutes pour qu'on puisse.
C'est très bien, j'y suis presque. C'est tout ça qui se pose comme question.
Prendre quelques questions.
Et donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donner de la transparence. Vous pouvez faire des labels. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des benchmarks, c'est-à-dire des indices qui vont comparer les différentes choses. Et ça, évidemment, ça permet à vous, moi, quand on place nos petites économies, de savoir si vraiment on le place dans ce pourquoi on voulait le placer ou pas. La première chose, ça permet aussi de décider ce à quoi on va donner un coup. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. Parce qu'on sait ce qu'on veut pénaliser et on sait ce qu'on veut avantager. Donc, c'est absolument central de faire ça. Une dernière chose qui est importante. Même si on réussit à faire ça en Europe, même si on fait tout super, c'est pas sûr, hein, parce qu'à 27, c'est compliqué. On représente 11% des émissions mondiales. Ça veut dire qu'il reste 90% du problème ailleurs. Donc même si on fait tout super, si ailleurs, ils font pas, ça va mal se passer. Quelqu'un a dit tout à l'heure, les pays en développement, on peut pas leur dire, ah, désolé les gars, nous, en 200 ans de développement, on a bouffé tout le capital environnemental, vous pouvez plus vous développer. C'est absolument inaudible pour eux. Heureusement, il y a une solution, c'est de les aider à sortir par le haut. C'est-à-dire, on va vous aider à sauter plusieurs générations technologiques pour vous développer d'une manière qui vous permet en même temps de diminuer massivement vos émissions, plutôt que, en vous développant, de les accroître. Mais là, vous n'êtes plus sur 5 000 milliards. Vous êtes sur le double. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé, avec les Chinois, les Indiens, et on va lancer ça formellement à l'ONU lors de la grande conférence qui aura lieu en septembre et au président de la République sera une alliance internationale pour que ce langage commun il soit pas seulement européen mais il soit mondial de sorte que les grands fonds mondiaux puissent faire effectivement une comparaison des investissements entre pays, en Chine, en Inde, en Europe, aux États-Unis. Et ça, c'est le seul moyen qui est de permettre un financement d'infrastructures décarbonées pour que les pays en développement continuent de se développer tout en réduisant leurs émissions. Et voilà, j'ai fini.
Merci beaucoup, Olivier Guersan. Alors, je vous propose de passer à vos questions. Est-ce que... Oui ? Alors, le micro va circuler.
Je m'appelle Alexandre et je suis en licence d'économie, langue et société chinoise à l'Université Paris-Nanterre. Tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler que les inégalités sont un frein au développement. Et c'est pourquoi je pense qu'avant de se concentrer sur l'écologie, il faudrait davantage se concentrer sur les problèmes d'inégalité. Pour vous donner un exemple concret, je ne pense pas qu'un Français, particulièrement un gilet jaune, se sente réellement concerné par l'écologie. Et ma question est la suivante. J'aimerais savoir si l'État a conscience de cette réalité, et si c'est le cas, que fait-il concrètement pour répondre à cette dernière ?
Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On peut en prendre plusieurs à la fois, oui.
Bonjour.
Moi, c'est Ulrich, élève au micro-lycée de Siena. En ce qui concerne le réchauffement climatique, j'aimerais savoir en fait ce que les économistes parlent de l'impact, l'impact que les guerres ont laissé sur notre climat, et aussi... En fait, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un monde, en fait, le mot il m'échappe, du capitalisme, en fait. Quelle est la place du capitalisme sur le réchauffement du climat? Et aussi, en ce qui concerne les taxes, pensez-vous que en donnant plus des taxes aux sociétés qui polluent le plus, est-ce que cela va changer quelque chose? Parce que moi, je pense qu'une société, en fait, lorsqu'elle sait qu'elle va beaucoup détruire, elle a beaucoup d'argent pour polluer. Et en plus, elle va aller s'installer dans un pays où elle est moins taxée, et elle va s'installer en France ou dans les pays développés, où elle sait qu'elle a beaucoup de taxes. En fait, son argent qu'elle reçoit dans les pays où elle est moins taxée va permettre à ce qu'elle paye ses taxes. Et ça aussi, il faut qu'on revoie ça. Et aussi, en ce qui concerne le livre sur la pauvreté en Afrique, j'aimerais soulever un truc, c'est que l'Afrique est un grand continent, Mais il y a une seule chose, c'est que la mentalité, c'est ça le problème de l'Afrique. Et aussi, il y a beaucoup de corruption en Afrique. Et voilà. Et aussi, il y a beaucoup de détournement de fonds en Afrique. Donc, c'est ça aussi qu'il devait mentionner, en fait. Moi, je pense que ces points-là manquent dans son livre. Il faudrait vraiment qu'il parle de ça, en fait. Merci.
Merci pour toutes ces questions. Peut-être une dernière tout au fond. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Salvatore, étudiant à l'Université Lumière Lyon 2. En économie et en finance. J'ai entendu pendant le débat beaucoup de choses qui me plaisent et en fait ma question c'est plutôt aussi une proposition. Ce serait de dire voilà, on sait que tous ces problèmes environnementaux ont un coût. Ce coût-là, malheureusement, il n'est pas comptabilisé. Ça veut dire par exemple, en France, on a 50 000 personnes par an qui meurent à cause de la pollution de l'air. Ces personnes-là, malheureusement, ne sont pas comptées dans le PIB. Le PIB, on a entendu tout à l'heure, on regarde toujours la croissance du PIB pour voir, à niveau international, où est-ce qu'on est. Et en fait, on se soucie que de ça, de la croissance. Mais est-ce que ça serait possible d'intégrer dans le PIB ces coûts, justement, des personnes qui sont décédées à cause de la pollution. Par exemple, en France, on en a 50 000. En Chine, on pourrait dire qu'on en a plus ou moins 1 million par an. Ça commence déjà à faire beaucoup de personnes qui, malheureusement, ne sont pas comptées, pas parce que leur vie n'a pas de valeur, mais parce que leur valeur est inestimable. Et ce n'est pas parce que c'est inestimable qu'il ne faut pas la compter, je trouve. Voilà, merci.
Merci pour cette remarque, proposition. Peut-être une dernière question devant.
Bonjour, je suis Aymen Ezaraoui, étudiant en prépa ECT. Et ma question est, puisque depuis tout à l'heure, au bout de deux tables rondes, nous sommes en train de discuter l'une de, parmi plusieurs dysfonctionnements du système économique, est-ce que vous ne pensez pas que la solution à toutes ces questions, à toutes ces problématiques, ne serait pas un changement de l'essence du système économique, qui est le capitalisme? Et qui, peut-être, il ne faudrait pas poser ce débat tant caché. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de système, système politique et économique? Merci.
Vaste question. Alors, je vous propose de chacun choisir peut-être certaines questions pour qu'on puisse répondre à toutes. Il nous reste 10 minutes. Donc, de faire des réponses concises et puis chacun choisisse.
Alors, je vais essayer de répondre à la première question. C'est déjà sur le constat de dire est-ce qu'il n'y a pas une priorité par rapport à une autre. Les inégalités, c'est autant important que le climat, mais je crois que surtout la façon dont il faut aborder le sujet, je pense qu'il ne faut pas segmenter les politiques. Et c'est ce qu'on fait sans arrêt. Et je crois qu'en résolvant la problématique du climat, on résolvera une partie des problématiques des inégalités. Et je vais prendre un exemple, parce que par exemple en France, vous me dites les gilets jaunes, vous prenez l'exemple des gilets jaunes, et c'est vrai que bien souvent, parmi les Français sur les ronds-points, vous avez des personnes qui sont ce qu'on appelle en précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils habitent dans des logements, que ce soit des maisons ou des appartements, très mal isolés, et donc ils payent des factures d'électricité et d'énergie extrêmement importantes. Donc, un, c'est pas bon pour l'environnement, deux, sur leur pouvoir d'achat, c'est terrible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, comment on essaye de répondre à ça, même si c'est des réponses qui sont largement critiquables? Alors, il y a une politique de rénovation massive des logements, et pour pouvoir les accompagner face à ce présent, il y a l'existence du chèque énergie qui va leur permettre de payer leur facture d'électricité ou leur facture de fuel. Et ça, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on vient accompagner, c'est un accompagnement. Je pense que le mot n'est pas très juste, c'est pas un accompagnement à la transition écologique, parce que si on faisait une vraie transition écologique, c'est un peu paradoxal de venir subventionner finalement ou d'accompagner le financement d'une énergie fossile. C'est compliqué de réconcilier les deux, mais on a bien en tête la nécessité justement de réconcilier et de traiter ces deux problématiques en même temps. Il faut trouver les bons outils avec, là aussi, on a beaucoup parlé de les temps qui se finalement qui divergent, ou comment on parle, Stern parle de la convergence des horizons, de la tragédie des horizons. Et moi, je pense qu'il faut les faire converger, justement. Et il faut faire converger les horizons parce qu'il y a ce présent, et donc le présent, le quotidien du gilet jaune, fin du mois, fin du monde, il faut arriver à les mettre en même temps. Mais je crois qu'on a bien tous conscience de ces problématiques-là. Sur la comptabilisation des coûts à venir, donc la question tout au fond, vous avez raison, aujourd'hui, dans les outils d'évaluation, que ce soit un amendement que je déposerai à l'Assemblée nationale, c'est clair que dans l'évaluation, on n'a pas beaucoup d'outils d'évaluation à l'Assemblée nationale, mais on va demander à Bercy de nous faire une évaluation de notre amendement. Le coût, il va être effectivement qu'économique. On ne va pas avoir l'évaluation de l'impact éventuel sur la santé ou autre. Et ça, c'est, il faut... Alors, est-ce que c'est à intégrer dans l'existant ? Est-ce qu'il nous faut des outils supplémentaires ? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je suis rapporteur spécial sur au sein de la commission des finances. On a des députés qui sont en charge de chaque budget, de chaque mission budgétaire. Moi, je suis en charge de la charge de la dette, donc un budget de plus de 40 milliards. Et j'ai travaillé sur ce sujet. En tout cas, j'ai essayé de poser la question de savoir comment on évalue la dette écologique. Aujourd'hui, on en parle beaucoup dans la campagne des européennes. Tout le monde dit la dette écologique. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à la chiffrer. Moi, j'ai commencé ces travaux-là, mais j'ai face à moi des administrations qui sont en difficulté de pouvoir me répondre pour intégrer ces coûts. Donc, c'est possible. C'est absolument pas aujourd'hui intégré dans le modèle. Et donc, la question qui se pose, c'est un, il faut qu'on ait des outils, et deux, est-ce qu'on l'intègre aux outils existants dans la décision politique, ou est-ce qu'on a l'outil à côté ? Voilà, même si j'aurais aimé répondre à toutes les autres questions.
Michel ? J'ai demandé à mon voisin la possibilité d'intervenir en second parce que j'ai un train à prendre. Donc,
c'est une bonne raison.
Que j'ai besoin de réconcilier avec le fait que je suis très bavard. Je vois une... Il y a des liens entre vos questions. Parce que, madame a raison pour votre question, monsieur. Les premiers victimes du réchauffement global et d'une manière générale de la dégradation de l'environnement, c'est les plus faibles. Toujours. Toujours. Les gens dont vous parlez qui meurent de la pollution, c'est pas les gens qui habitent en bordure de la forêt de Saint-Germain-en-Laye en banlieue ouest. Hein. Je vous assure. C'est pas ceux-là qui vont mourir de manière prématurée de la pollution à Paris. C'est invariablement les plus faibles et les plus fragiles. Et donc, à mon avis, ça n'a pas de sens d'opposer les deux. Quand vous subissez les inégalités, vous subissez de plein fouet les inégalités environnementales, d'abord et aussi. Et c'est vrai aussi au niveau international. Ça va finir par affecter tout le monde, mais ça va d'abord affecter les plus faibles et les plus pauvres. Donc le combat contre le réchauffement global, c'est aussi un combat contre les inégalités. Et ça, il faut quand même bien se le mettre dans la tête. Deuxièmement, pour les gilets jaunes, quand même d'un mot. D'abord, outre le fait que moi je suis quand même fasciné de voir après tant de semaines entre 20 et 30 000 personnes dans les rues. Enfin, 20 et 30 000 personnes, dans mon jeune temps, c'était une manifestation ratée. Hein. Qu'est-ce qui les motive sur la question de la taxe carbone au départ ? Moi, je les comprends. Quand on explique aux gens qu'on taxe le diesel, mais qu'on ne va pas taxer le kérosène et qu'on ne va pas taxer le fioul lourd des bateaux, ils ont un peu du mal à voir la finalité écologique. Ils se disent qu'en réalité, ils servent de vache à lait. Donc, à la base, je trouve qu'il y a une maladresse claire qui justifie. Mais, in fine, il va bien falloir renchérir certains coûts, et notamment le coût des dépenses en carburant, parce que c'est une condition pour pouvoir financer certains autres coûts, et notamment les rénovations énergétiques des bâtiments, parce que madame a tout à fait raison. Quand vous êtes au seuil de pauvreté et que vous vous tapez 400 euros par mois de note d'électricité en hiver, c'est juste pas soutenable. Et là aussi, vous êtes la victime des inégalités environnementales. Donc, il y a un lien dans tout ça. Et il y a aussi un lien avec la dernière question de monsieur. Bien sûr que le capitalisme, avec le capitalisme, on a eu le début d'un développement économique sans précédent. Et c'est bien sûr ça qui nous a amené là. Si on était encore vers 1750, on n'aurait probablement pas les mêmes problèmes. On n'aurait pas non plus le même niveau de vie. Et on aurait tout le problème. La peste, 3-4 bricoles. Donc, et le problème, c'est que les gens en général, ça revient sur la première question de monsieur, les gilets jaunes et les autres, ils ne sont pas prêts à réviser drastiquement leur niveau de vie pour ça. Et donc, j'ai bien peur que le problème ne soit pas d'éradiquer brutalement le capitalisme, parce que le temps qu'on se dépêtre des problèmes que ça va créer, je pense qu'on sera déjà tous morts avec le réchauffement global. Donc, à la fin, à part d'avoir des stratégies intelligentes de mitigation qui sont aussi socialement acceptables que possible, à court terme, je ne vois pas trop quoi faire dans le système actuel. Après, si on est révolutionnaire, c'est un tout autre débat. Moi, j'accepte parfaitement qu'on soit révolutionnaire. Je trouve que c'est même plutôt bien à votre âge. Si on n'est pas à votre âge, on l'est rarement plus tard. Donc, continuez comme ça.
Michel Colombier, est-ce que vous voulez ajouter des éléments de réponse?
Oui, peut-être deux points. Bon, sur le dernier point, je pense que ça peut être une suggestion d'une prochaine réunion ici, de savoir si en effet c'est une remise en question. Moi, en fait, la question derrière capitalisme, c'est quand même, enfin, le capitalisme, je sais pas ce que c'est. C'est quand même extrêmement compliqué. Là, on vient de discuter d'un certain nombre de traits très particuliers du capitalisme qui s'est développé depuis une vingtaine d'années, qui a une financiarisation à l'extrême, etc. C'est beaucoup plus large que le capitalisme. Par ailleurs, il y a quelques modèles qui se sont arrêtés il y a quelques années en arrière, qui n'ont pas non plus été très performants sur la prise en compte de la question environnementale. Donc, je ne pense pas que ça soit... Ce débat-là, il n'est pas spécifique à l'environnement. Et les pays de l'Est, dans un autre modèle, n'étaient pas bons non plus sur la prise en compte de l'environnement, pour des raisons symétriques, d'ailleurs, tout à fait de ce qui nous limite aujourd'hui. Moi, il me semble qu'il y a une chose... Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire on ne peut pas opposer les inégalités, etc., parce que les pauvres sont les premières victimes, mais je voudrais rajouter quelque chose de plus, qui est la difficulté de la transition. Une fois qu'on a dit, je suis d'accord, il faut rapprocher les horizons, bon, c'est bien, mais justement, rapprocher les horizons et dire qu'il faut faire une transition, c'est mettre tout en tension. C'est-à-dire, c'est dire ce qu'on fait jusque-là, ça ne marche plus. Donc, c'est changer plein de contrats sociaux. Et quand on dit, qu'on prétend d'ailleurs de discuter si c'est des normes ou des taxes, ça change les règles qui jusque-là liaient les gens, leur fonctionnement, leur contrat social, leur insertion. Et soit on le fait à touche totalement homéopathique, ça marche très très bien, on nous bassine avec British Columbia qui a fait une taxe qui a bien fonctionné, mais l'essence elle coûte moins d'un euro, ils ont augmenté de 5 centimes en 3 ans l'essence, ça fonctionne bien, mais sur le point de vue environnemental, ben, on n'arrive pas à la solution. Soit on change un peu plus radicalement et on a besoin de ça, ce contrat qui nous lie tous depuis des années, et d'un seul coup, on met tout le système en tension. Et ça, forcément, c'est compliqué. Cela dit, sur la question inégalité, il faut rappeler aussi une autre réalité, c'est que ce n'est pas seulement que les personnes les plus fragiles sont ceux qui sont victimes des problèmes d'environnement, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir chez eux ou qu'on va les polluer plus que la moyenne, mais c'est aussi que ce qu'on voit au travers de l'environnement, c'est parfois, et je repense encore à ce que vous disiez sur votre bouquin, quelque chose qui est à l'origine des inégalités. Et c'est ça que je trouve intéressant. Quand on dit aujourd'hui, on va taxer les déplacements, c'est un problème, en effet, pour les plus pauvres, pour les gens qui vivent en banlieue, pour ceux qui se tapent 50 km en voiture tous les jours pour aller au boulot parce qu'ils ne peuvent pas acheter dans le 7e arrondissement. Mais si on réfléchit dans l'autre sens, les gens qui sont obligés d'avoir cette stratégie-là, c'est des gens qui vont passer leur vie à dépenser leur salaire pas très élevé en le brûlant en essence. Pendant que d'autres vont le dépenser en créant du capital qui va passer à la génération d'après. Donc on voit bien comment les règles aujourd'hui qui ne prennent pas en compte un certain nombre d'éléments qui sont des éléments importants pour la question écologique sont aussi des règles qui génèrent de l'inégalité. Une fois qu'on a dit ça, changer les choses aujourd'hui, c'est plus compliqué pour les types qui sont à 50 km que moi qui habite à Malakoff et qui peut venir en vélo. Et en effet, ça ne me gêne pas tellement le prix du diesel, de toute façon je ne m'en sers pas. Mais ce n'est pas par écologie, c'est parce que c'est pratique. Donc on est dans cette contradiction en permanence, et je crois que c'est toute la difficulté, il faut être modeste, mais la difficulté aujourd'hui du politique de résoudre cette question-là. Mais la solution qui consiste simplement à amoindrir la tension, elle n'est pas là. Et c'est pour ça, une dernière chose qui est... Il y a une question à la première table ronde, je vais y répondre parce qu'elle m'a énervé. Oui, c'est une question qui m'énerve, qui est, pour vous, c'est quoi le truc le plus important? Est-ce que c'est les taxes, les normes, le financement, etc.? Pour moi, ce n'est pas une bonne question. C'est-à-dire que, par rapport à ce dont on vient de parler là, on voit bien que la taxe, elle rééquilibre un système de prix. Et bon, s'il y a un système de prix qui ne fonctionne pas, en tout cas, tant qu'on est en capitalisme et qu'on ne refait pas une société totalement administrée, sans système de prix ou avec un système de prix idiot, on a assez peu de chances que des entreprises, des gens, etc., fassent les bons choix. Après, il y a un problème du rythme auquel on peut changer le système de prix, puisqu'encore une fois, on change un contrat. Mais le système de prix, il nous guide, entre autres. Pas seulement. On achète des voitures pour d'autres choses, pour frimer, etc., pas juste par un système de prix. Mais quand on change ce système de prix, on va rendre, par exemple, l'isolation dans les logements plus efficace. Ou on va rendre la production d'énergie renouvelable plus efficace. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un truc qui est efficace ou qui est rentable que chacun peut le faire. Parce qu'on a besoin d'argent pour le faire. Et tout le monde n'a pas accès à l'argent de la même façon. Donc le financement est évidemment essentiel, et ce n'est pas l'un ou l'autre. Si le système de prix est débile, ce n'est pas la peine d'or du financement, on ne trouvera jamais des endroits pour l'appliquer, ou alors ça va nous coûter très cher. Mais juste le système de prix, si la plupart des gens, des entreprises, des PME, des collectivités, n'ont pas accès au même titre que des très grandes entreprises qui peuvent aller toutes seules sur des marchés financiers chercher de l'argent, elles n'ont pas. L'Allemagne, par exemple, elle emprunte, donc on voit ce qu'on disait tout à l'heure, le supply-demand de la finance. L'Allemagne, elle emprunte des milliards d'euros sur les marchés financiers à un taux quasi zéro parce qu'il y a une signature allemande. Et elle a trouvé un système de distribution par les banques de détail pour amener cet argent à taux zéro aux Allemands pour investir dans la transition énergétique. Donc, on est bien dans la question. Sinon, ce n'est pas eux qui peuvent investir, c'est les grandes entreprises. Et donc, elles produisent de l'énergie au lieu d'en économiser. Donc ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'on n'est pas dans une question de hiérarchie, on est une question de comment on articule ces choses-là. Et si on commence à le prendre dans ce sens-là, je pense qu'on a plus de chances d'y arriver.
Il y avait une question assez intéressante sur le sujet du lien entre la concurrence fiscale entre les États et finalement l'impact sur le changement climatique. Ou le lien, en tout cas, avec les politiques environnementales. Je trouve que cette question, elle est intéressante. J'ai pas de réponse, mais je vais vous donner quelques réflexions que j'ai sur le sujet. Un, on peut prendre via le prisme en disant, finalement, via cette optimisation, cette évasion fiscale, on a de moins en moins de recettes pour les États et donc, au final, de moins en moins de moyens pour accompagner les politiques de transition écologique. Il y a une autre question aussi, en tout cas, moi, je me suis posée en travaillant sur l'optimisation fiscale ou la transformation de l'économie du numérique, et notamment les entreprises, les gens numériques que vous connaissez bien, mais comme Google, Facebook. On se pose la question de savoir, mais comment on les taxe? Est-ce que c'est le prisme utilisateur? Est-ce que c'est le prisme consommation? C'est le marché qu'on a en Chine ou en France? La question, où, là, c'est complètement pensé hors cadre, donc vous en ferez ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, c'est une question que je me suis posée, mais est-ce qu'on ne peut pas penser autrement et se dire, bah, finalement, ces entreprises, elles polluent beaucoup. Amazon, d'une certaine manière, via les transports. Facebook, parce qu'il y a les serveurs qui produisent, vous le savez, ils sont dans les pays du Nord pour justement refroidir les serveurs. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, on ne pourrait pas taxer ces entreprises, ou en tout cas les faire participer? Ce n'est pas une histoire de taxer pour taxer, c'est une histoire de vous produisez de la valeur, et donc il y a un moment donné, il faut participer à l'effort national, à l'effort global. Est-ce qu'on pourrait imaginer une fiscalité qui soit basée sur les pollutions? C'est compliqué, enfin, je pense que, encore une fois, je ne suis pas complètement utopique pour imaginer une assiette fiscale très pragmatique et assez facile à mettre en œuvre. C'est, enfin, à mon avis, il faut réfléchir deux secondes. Et puis, je me sens un petit peu, je me mets à votre place. Je dois pas être beaucoup, beaucoup plus âgée que vous. Mais à un moment donné, moi aussi, j'avais plutôt l'esprit révolutionnaire en me disant, faut changer de modèle, le capitalisme, stop. Et j'ai envie de vous dire, ne perdez pas le temps que j'ai perdu et mettez votre énergie ailleurs, parce que je pense que le modèle, en fait, c'est une bonne question. Mais le modèle, on ne va pas le changer, encore une fois, du jour au lendemain. Donc, c'est plutôt comment on rectifie le modèle. C'est comment on corrige les erreurs de ce modèle-là. Comment on remet des signaux. Encore une fois, est-ce que c'est la fiscalité? Est-ce que c'est d'autres? C'est lâche. Non, mais je pense que... Voilà, parce que moi, je crois que vraiment, on doit mettre notre énergie sur du pragmatique, de l'opérationnel. Et vraiment, je vous encourage à trouver des nouveaux instruments, penser hors cadre aussi. Je veux dire, finalement, moi, je trouve que la question se dire, est-ce qu'on change de modèle? Moi, désolée, je pense que cette question-là, elle est lâche. Moi, je pense qu'elle est trop facile, cette question-là. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'intérieur du modèle et se dire où sont les corrections à apporter. Il y en a plein à apporter. Je pense que toutes les réponses, elles ne sont pas uniquement sur des taxes carbone, etc. Il faut être là aussi innovant, penser hors cadre. Et on est trop, surtout en France, on nous invite à penser vraiment à la fois dans des silos et sur des modèles finalement assez basiques. Donc voilà, soyez imaginatifs, inventer de nouvelles choses, trouver des solutions pour corriger ce modèle capitaliste. Et puis je terminerai par, alors peut-être que les fenêtres ne sont pas très bien isolées, mais je peux vous dire que depuis que la majorité est arrivée, c'était scandaleux, on avait des verres en plastique pour notamment aller boire de l'eau dans les commissions ou dans les couloirs. On a un petit peu modifié ça, on utilise des verres en carton et on essaye d'utiliser des bouteilles en plastique recyclé. Je ne suis pas convaincue que celles qui sont en face de nous soient en plastique recyclé, mais c'est clair que tout le monde là aussi, c'est des petits gestes, mais des gestes qui comptent vraiment.
Merci beaucoup. Merci pour vos questions, votre participation, et je laisse la parole à Pascal Lemerer.
Merci d'abord à tous. Je trouve qu'une matinée très longue comme celle-là, vous avez été quand même... Je trouve très très sérieux, j'en suis impressionné. Je remercie bien évidemment les intervenants, les experts, mais aussi les députés. Je trouve que c'est un exercice absolument passionnant d'avoir cette discussion. Marie Danser, qui a accepté un peu au pied levé, je dois l'avouer, de reprendre ces deux tables rondes. Juste quelques informations. On peut se retrouver, si vous voulez, à Lyon. On a un bon bilan carbone avec le TGV sur les 5, 6, 7 novembre et on continuera. Puisque Kathleen Schubert et Alain Grandjean en ouvrira avec eux, et ils ont décidé de débattre avec Joseph Stiglitz, qui, à mon avis, pourrait permettre de faire encore un peu avancer le débat. Donc, on pourra continuer si vous voulez. Je voulais aussi vous donner une petite info. Il y a un concours qu'on avait créé il y a 2 ans, d'abord avec la BCE, puis maintenant avec Citeco. Vous pouvez faire des petites vidéos sur comment expliquer quelque chose en économie, mais de manière intrigante. La manière que je ne sais pas, moi, mettre en place, parce que je suis un vieil économiste. Vous pouvez le faire. Et en plus, je crois que vous pouvez gagner 3 000 euros, 2 000 euros. Enfin, ils ont mis des prix. Regardez sur le site Journée. Exemple typique des petits jeunes pour parler des produits financiers l'an dernier. Ils avaient pris les Bowie Bonds. C'est David Bowie pour financer ses disques. Il a commencé par faire des produits financiers. Ben, on n'y avait pas du tout pensé. Nous, ça faisait des années qu'on enseignait l'économie. On s'est dit, mais il a fallu que ce soit un petit jeune qui nous dise, ben voilà, ça, moi, je peux vous expliquer les produits financiers autrement. Faites-le. Jouez à ce concours-là, d'abord vous gagnerez peut-être un peu d'argent, et puis nous on sera très très contents de faire remonter les expériences que vous allez nous proposer. À bientôt, j'espère.